Les voix du livre. Une émission proposée par Fanny de Citre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez memorialiste.fr. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Nous accueillons aujourd'hui Christophe Alves.
Bonjour.
Dessinateur et auteur de bande dessinée qui vient de publier Lune Rouge, le 30e volume des aventures de Guy Lefranc aux éditions Casterman. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission et qui ne va pas commencer comme d'habitude. Et oui, un peu de piment dans les voix du livre, ça fait du bien puisque nous accueillons aujourd'hui deux nouvelles voix. Et oui, rien que ça, je veux bien sûr parler de Fanny de Citre, du Cyprès, qui viendra désormais en alternance avec Hélène Séjo présenter les coups de cœur du Cyprès. Alors, vous ne la voyez pas, mais elle est prête dans les starting blocks, ça va chauffer. Pour maintenir encore un peu le suspense sur ces propositions de lecture, je vous présente notre deuxième nouvelle voix, Arthur Caillot. Il a 15 ans et fait baisser agréablement la moyenne d'âge de l'émission. Nous avons quand même 30 ans d'écart, je ne dis rien. Et il a des centaines de lectures à son actif, avec une spécialité, la catégorie qu'on appelle en bon français « young adult », c'est-à-dire la littérature pour adolescents, qui, soit dit en passant, se laisse très bien lire par de vieux ados comme moi, par exemple. Et il ne se contente pas de parler, il a aussi un compte Instagram et une page Facebook, très fourni, sous le doux nom de l'ado accro au livre, et pas de sevrage en vue, tant mieux. Il y donne de très nombreux conseils de lecture. Alors, si vous cherchez un roman pour votre nièce ou votre petit-fils, allez donc, ou pour vous-même d'ailleurs, allez donc y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Ou plus simplement, écoutez tous les mois les voix du livre, et ce mois-ci, on démarre sur les chapeaux de roue, peut-être en chantant. Il y en a pour tous les goûts. Alors Arthur, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Merci Claire pour cette présentation. Pour cette première fois, j'ai sélectionné mes deux coups de cœur du mois. Désorienté, de Marine Carteron, aux éditions Casterman, paru le 6 novembre dernier. Et Falalalalalalalala, d'Émilie Chazeran, aux éditions Sarbacane, paru le 2 octobre 2019.
Ça a déjà un petit côté cantique de Noël. Oui.
Désorienté, c'est l'histoire de Louise. Louise qui est en terminale et qui doit choisir une orientation sur Parcoursup, comme tout le monde. Sauf que Louise ne veut pas choisir. Elle désire sortir de ce système barbare où les machines décident de votre futur. Seulement, la vie n'est jamais simple. Comment va-t-elle faire pour ne pas gâcher son avenir ? Va-t-elle réussir à convaincre sa mère, sans cesse sur son dos, qui décide de tout à sa place ? Un dilemme énorme se joue pour Louise. Pour l'instant, je ne suis qu'en seconde et Parcoursup me semble loin.
Oui, mais pourtant, ça viendra vite. Hein. Pardon.
Mais pourtant, ce livre m'a beaucoup plu. Marine Carteron, l'autrice, n'a pas pour l'habitude d'écrire dans le registre du réalisme. Elle a déjà écrit du fantastique, du roman noir, mais jamais ce genre de roman. Et je veux vous le dire, moi, c'était excellent. Des phrases courtes, sensibles, percutantes, prenantes. Une histoire qui saisit aux tripes et qui nous tient hors d'haleine pendant la lecture. C'est juste merveilleux. Une pépite, une perle, un chef-d'œuvre de la littérature young adulte.
Eh ben, ça fait envie, dis donc, hein.
C'est ce qui est bien avec les auteurs jeunesse par rapport aux auteurs adultes. Ils excellent dans n'importe quel style. En tout cas, c'est vrai avec Marine Carteron.
Ils vont être contents d'entendre ça parce que la littérature jeunesse est tellement souvent considérée comme une sous-littérature.
Ouais, dévalorisée.
Voilà,
ouais.
Exactement, que ça fait du bien. Ça fait du bien. Exactement. Voilà, parole de lecteur, oui.
Et pardon, du coup, je vous invite fortement à lire, à faire lire ce livre. Vous ne pourrez que l'aimer. Vous vous attacherez à Louise comme moi, je l'ai fait. Vous suivrez son parcours, les larmes aux yeux, et serez ébloui par la fin. Je le sais. Maintenant, on change totalement de registre pour retrouver Falalalalalalalala, un roman parfait pour Noël qui vous émerveillera d'une autre façon que désorienté. Rien qu'avec ce titre chantant, on sait que l'on a affaire à une aventure loufoque. Je ne sais pas si vous connaissez Émilie Chazeran, mais cette autrice a déjà publié plusieurs romans hilarants et celui-ci n'échappe pas à la règle. Un concentré de bonne humeur, d'humour et de bienveillance parcourt ses pages et vous en ressortirez très certainement le sourire aux lèvres.
Ça,
Richard,
c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Hein.
Ah bah oui.
Ça fait toujours du bien. Un bon roman qui nous fait sourire, ça se rate pas.
J'ai en plus, à la période de Noël.
Oui, exactement.
Richard, 1m90, vit dans une famille de nains. Et oui, chez les Tenenbaum.
Déjà, rien que ça, on est bien parti.
Oui. Parce que chez les Tenenbaum, voilà plusieurs générations que les enfants naissent filles et naines. Richard est donc une exception.
Ah oui, en effet, à double titre. C'est pas facile tous les jours. Hein.
Seulement, pas facile de vivre entouré de petites personnes quand on fait soi-même le double de leur taille. Et pour ne rien arranger, cette famille possède une ferme très connue en Alsace et dont les quatre générations vivent sous le même toit. Mais bon, dans cette famille loufoque, pas le temps de s'ennuyer. Histoire d'amour, maladie, folie, Émilie nous livre ici un cocktail explosif agrémenté d'une option Noël. Impossible quand on voit le titre de ce roman de ne pas penser au célèbre air et de ne pas le chantonner toute la journée. J'ai d'ailleurs une anecdote très amusante à vous raconter. Grâce à mon blog, je reçois certains livres en avant-première. C'est le cas de celui-là. Et devinez quoi ? Les éditions Sarbacane nous avaient envoyé une carte de Noël contenant une boîte à musique avec l'air de falalalalalalalala.
Mais dis donc, c'est chouette ça.
Je vous le dis sérieusement, j'ai eu la musique dans la tête pendant une semaine.
Alors moi aussi, je sens que là maintenant, aussi, ouais. Ça fait 3 fois qu'il la chante, là c'est bon là. Ça y est, 3 semaines.
Bref, tout ça pour vous dire, courez vite acheter ce roman pour Noël, c'est la lecture parfaite, à partir de 15 ans.
À partir de 15 ans, voilà, c'est de 15 à 115 ans.
Et bien voilà pour ce mois-ci, ces deux romans vous tentent. Vous pouvez les retrouver dans toutes les bonnes anciennes et bien sûr à la librairie Jean de la Lune à Nevers, qui fait partie du Cyprès, mais qui propose des livres jeunesse, ados et young adultes. Merci et n'hésitez pas à me contacter sur mes pages pour me dire ce que vous en avez pensé de ces deux merveilleux romans.
Donc en fait, si vous faites le service après-vente, c'était pas si bien que ça en fait. Non, je pense que vous aurez plutôt des retours. Effectivement, c'était encore plus drôle que prévu. Je pense que vu les choix, je pense à celui de la famille avec les naines, c'est assez original comme thématique.
Oui. Hein. Et pour avoir lu les 60 premières pages, je confirme que c'est très drôle et que c'est parfait pour la période
c'est
de Noël. C'est
l'idéal.
C'est idéal.
À mettre sous le sapin.
Exact.
Alors, justement, Fanny, vous aussi, vous allez nous parler d'un roman qui parle d'un ado, mais alors...
Ouais. Alors là, on est dans un autre univers. C'est pas le conte de Noël, non, pas du tout. Non, alors, donc c'est un livre de Marin Fouquet. Donc c'est son premier roman qui s'appelle 7-7. Donc l'auteur insiste bien sur le fait qu'on prononce 7-7 et non pas 77, ça correspond au département de la Seine-et-Marne, et il insiste là-dessus pour lui donner une identité, comme on va parler du 9-3 par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le 7-7 qui est une région du coup assez proche de Paris, assez éloigné pour que ils aient pas cette identité parisienne et encore assez proche pour qu'ils n'aient pas une identité de ruralité, de vraie campagne.
Comme à Nevers, par exemple.
Donc voilà, c'est un territoire un peu perdu où apparemment il ne se passe pas grand chose. Donc voilà, ça c'est le décor. Et moi déjà, ce qui m'a frappé, c'est la couverture du livre. Donc les auditeurs peuvent pas la voir, mais on a une photographie, d'une petite grenouille qui est prête à passer sous les roues d'une voiture.
Oui,
on sait pas trop ce qui va se passer.
Mais oui.
Voilà. Et c'est une esthétique qui est très froide et très crue. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie justement d'ouvrir le livre et de savoir ce qui allait se passer dans ce livre. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le livre. Une esthétique très froide.
Oui,
très cru.
La couverture est presque en noir et blanc. Elle est pas en noir et blanc.
Oui,
enfin,
c'est pris avec un flash qui est très violent. Voilà.
Et ça fait un peu. Il y a une tension là déjà.
Exactement. Et c'est une tension qu'on va retrouver justement dans le livre. C'est pour ça que je trouve la couverture très bien choisie. Et ce qui frappe d'emblée dans ce livre, c'est le style de l'auteur. Donc, il faut savoir que Marin Fouquet, c'est un slameur, un poète, un rappeur. Il est diplômé des Beaux-Arts. Il étudie le chant lyrique. Il est boxeur à ses heures perdues.
Un garçon qui ne sait rien faire.
Voilà, exactement.
C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui?
Voilà, moi, c'est déjà un personnage qui m'intéresse beaucoup. Et on retrouve ce... Alors, dans le milieu du rap, on appelle ça le flow.
Oui.
Donc c'est la cadence et le rythme des paroles qui sont scandées. Et on retrouve ça vraiment tout au long de la lecture. C'est une écriture hyper incisive, c'est hyper percutant, il y a énormément de rythme. C'est un livre qu'on a envie de lire à voix haute. Et justement, on a la chance d'avoir Marin Fouquet le 29 novembre à la librairie du Cyprès, donc à 18h. Et moi, j'ai hâte qu'il vienne pour l'entendre lire son livre à voix haute.
Ou dis donc, oui, ça promet.
Je pense que voilà, on va avoir une belle soirée.
Je vais noter ça sur mon agenda.
Oui, venez nombreux. Oui. Voilà. Et au-delà du style, on a l'histoire d'un adolescent, voilà, qui habite un village un peu perdu et qui attend son car sous un abribus. Et puis ce matin-là, il ne monte pas dans le car, il va rester dans l'abribus. Et à l'aide de substances un peu illicites, pour ne pas les nommer, il va plonger dans ses souvenirs de l'année passée. Mmh. Et plus le livre avance, voilà, plus il remonte dans ses souvenirs de ses expériences qui sont souvent à cet âge-là, voilà, il est
un peu forte, un peu déviante,
un peu violente presque. Ouais. J'ai trouvé que c'était hyper juste sur une période qui est pas forcément évidente à vivre. Je préfère pas trop en dévoiler
en
sur l'histoire,
plus,
faut le découvrir. C'est un roman qui remue. On n'en sort pas tout à fait indemne, mais ça reste très très intéressant et puis vraiment une plume incisive,
oui.
Géniale.
Avec vraiment un style.
Ça fait du bien.
Ça donne envie. Hein.
Voilà, j'espère. Tant mieux.
Vous aussi, vous faites le service après-vente comme.
Exactement. sans problème.
Et est-ce qu'on retrouve la grenouille ?
Non. Oh, la grenouille reste sur la couverture. Alors maintenant, grand écart.
Oui, comme tout à l'heure avec Arthur.
Rien
à
voir.
On aime bien ça dans les voies du livre. On ne creuse pas le même sillon.
Si,
c'est ça qui est bien.
Il pourrait y avoir un petit point commun qui serait la musique. Là, on a parlé un peu de rap, parce que c'est un auteur qui est rappeur. Dans ce deuxième livre, on va plus être sur de la musique classique. Donc c'est pour ça que je parle de grand écart.
Ah oui, c'est pas le même type de musique, mais ça reste musical.
Mais ça reste musical, et moi, c'est une vraie passion, la musique. Donc, c'est pour ça que ces deux livres m'ont intéressée. Donc là, c'est Âme brisée, de Akira Mizubayashi, paru chez Gallimard. Akira Mizubayashi, c'est un écrivain d'origine japonaise, mais qui écrit en français et parle en français.
D'accord.
Donc, il a appris le français à 18 ans. Donc je trouve que c'est déjà une sacrée prouesse d'écrire un aussi bon livre en français, quand on connaît la complexité de la langue française.
Oui, alors, le japonais, c'est pas mal non plus. Hein,
oui, le japonais, c'est pas mal non plus, j'avoue.
Bon, je dis ça, je dis rien.
Peut-être une petite démonstration.
Ah non, pas du tout, non. Non, désolée.
Donc dans ce livre, on est à Tokyo en 1938. Mm-hmm. C'est pendant la guerre entre le Japon et la Chine. La première scène du livre s'ouvre sur un quatuor à cordes qui est en pleine répétition. Et cette répétition va être interrompue par les militaires japonais.
Ils sont pas très mélomanes, ces militaires.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, on a un violoniste qui est japonais et trois autres musiciens qui sont chinois. Donc le gouvernement soupçonne ce quatuor de comploter contre le régime et donc arrête l'ensemble du quatuor. Il se trouve que...
Complot contre le régime, rien que ça.
Voilà,
oui.
Juste parce qu'il y a des
la
étudiants
musique,
chinois...
c'est dangereux. Hein.
Voilà. Et justement, c'est ce qui les rassemble, eux, la musique, malgré les tensions qui peuvent exister. Il se trouve qu'il y a le fils d'un des musiciens qui a le temps de se cacher avant l'arrivée des militaires. Il se cache dans une armoire et il voit son père se faire emmener par les militaires. Et il y a un des militaires qui fait un peu de zèle et qui brise le violon de son père. Donc devant ses yeux.
Un peu de zèle.
Voilà. Donc
oui,
c'est un acte
de zèle,
très violent.
Briser un violon, mais c'est affreux.
C'est affreux. C'est on est d'accord. Et voilà, ça marque le début de l'histoire. Comment ce petit garçon de 11 ans va se reconstruire. Et il y a justement un jeu de mots dans le titre, donc âme brisée. Mm-hmm. Donc ça va être l'âme du petit garçon qui est brisée.
Oui.
Et c'est l'âme physique de l'instrument, du violon. Dans un violon, en fait, on a une petite pièce en bois qu'on ajoute à la toute fin de la fabrication du violon qui va donner toute la résonance du son du violon. En fait, s'il n'y a pas cette petite pièce qui s'appelle l'âme, on n'a pas de son dans le violon. Donc, il y a un petit jeu de mots, âme brisée physiquement par ce militaire.
Ça s'annonce très fort aussi.
C'est très fort, mais il y a ce côté un peu japonais, j'ai envie de dire, qui est tout en finesse. en raffinement, en douceur. Et moi, ce qui m'a surtout plu dans ce livre, c'est qu'on parle de musique tout le long. Donc, on parle beaucoup de Schubert, de Bach. Mm-hmm. Voilà, il y a beaucoup de questions de lutherie également, parce que le but de ce petit garçon, ça va être de reconstruire le violon de son père. Donc, il va se mettre à la lutherie. Donc, on passe par Crémone. Voilà, on suit ce destin incroyable de ce petit garçon qui va donner sa vie à la reconstruction de ce violon.
Ouais, c'est,
voilà, ça, c'est très fort, c'est très beau, c'est très sensible. Hein. Voilà, j'adore ce livre.
Oui. Eh ben, écoutez, merci beaucoup.
Merci
à Fanny et à Arthur pour leur chronique, qui, je crois, nous ont donné très envie de faire ce genre de cadeau à Noël. Ça vous inspire des cadeaux, Christophe?
Oui, complètement.
Oui.
Non, mais complètement. En plus, c'est vrai que ça me parle aussi le côté japonais. Ma fille fait des études de manga.
Voilà.
Donc, allez à fond. Dans le manga, dans les gros romans aussi d'auteurs japonais.
Oh bah.
Donc ça peut être une idée, voilà.
Voilà, une idée un petit peu décalée.
Voilà, exactement.
Alors, restons dans la musique, puisque nous allons écouter maintenant le premier morceau que vous avez choisi, Christophe, un morceau un peu légendaire, si je puis dire. Qu'est-ce que vous avez choisi comme premier morceau?
Et pour quelques dollars de plus.
Voilà, donc...
De Morricone.
C'est un programme.
Très, très connu. On écoute ce thème très célèbre. Ben c'était donc pour quelques dollars de plus, ce qui est quand même un thème que tout le monde connaît et que tout le monde a fredonné au moins une fois. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce morceau, Christophe?
J'adore travailler en musique et surtout les musiques de films, parce que c'est vrai que juste la musique, ça donne des ambiances. Bon, le côté western spaghetti,
oui.
Qui était vrai. C'est vrai que c'était un côté péjoratif, mais moi c'est un western que j'adore, où les cowboys sont sales, méchants.
Bah oui, affreux, sales et méchants.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment un
avec
univers.
Avec la main sur le col.
Voilà, la barbe de 3 jours.
Voilà. Oui, alors vous n'avez pas la barbe de 3 jours, Christophe, ça va pas là.
Mais ça peut arriver.
Parce que
je me rase à peu près tous les 3 jours, donc vous avez
on
la chance.
Bonjour, voilà,
voilà, c'est ça. C'est le rasage de la journée.
Donc, un choix qui reflète en fait vos, l'une des musiques que vous écoutez quand vous dessinez.
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en fonction des scènes que je vais dessiner, je vais souvent adapter la musique en fonction. S'il faut si la scène est par exemple assez dynamique, une course poursuite, donc j'ai cherché, je sais pas, des musiques de Lalo Schifrin, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui.
De, je sais pas, l'inspecteur Harry, entre autres.
Alors effectivement, c'est pas tout à fait le même, enfin le même type de.
Oui, exactement. Oui, oui.
Mais voilà, parce que c'est une scène d'action. Oui,
oui, c'est ça. Et après, sur des scènes beaucoup plus psychologiques, par exemple. Donc là, Morricone, je trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. Elles sont très longues. Il m'arrive même aussi des fois de les repasser en boucle.
Ah oui.
Plusieurs fois pour être vraiment dans l'atmosphère.
Là, c'est une immersion.
C'est une immersion, oui, exactement. Et on sent par exemple le côté chaleur, je trouve, du western.
Oui, alors effectivement, comme on est en novembre, nous avons un peu moins de chaleur.
Exactement.
On en a besoin. Alors nous allons revenir dans le réel nivernais, dans les actualités. C'est pas tout à fait le Far West, la chaleur et les buissons qui roulent dans
exactement,
le vent.
Ouais.
Non, nous c'est l'automne, les feuilles tombent, c'est joli aussi. Hein. Et donc une belle actualité du livre ce mois-ci, puisque donc à la FNAC, samedi 30 novembre à 14h30, Laurent Rivière, qui est un Nivernais, mais qui, je pense, doit aimer aussi un petit peu le Far West, viendra dédicacer ses romans parus aux éditions du Toucan Noir. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Laurent Rivière est l'auteur d'une dizaine de romans policiers qui se déroulent tous dans la Nièvre ou en Bourgogne, comme le petit dernier, Dans les bras morts. Ou le précédent, La Diagonale du Loup, qui se passe dans le Morvan, avec son héros Franck et son chien Hopi, avec du Celt à l'intérieur. Et donc, il vient aussi, je l'ai appris il y a peu de temps, de recevoir le prix des lecteurs nivernais. Donc, on le félicite chaleureusement. Et donc, à la FNAC, hein, le 30 novembre. André Franck sera également à la FNAC. Il dédicacera le samedi 7 décembre, de 10h à 18h. Alors, c'est une autobiographie, hein, c'est pas un roman. Ça s'intitule, eh bien, puisque c'est son autobiographie, ça s'intitule « Ma vie ». Et ça parle de son enfance, de sa vie professionnelle, mais aussi de la guerre d'Algérie et de sa passion pour le cyclisme. Le samedi 14 décembre à 15h, toujours à la FNAC, Jérôme Loubry sera en dédicace pour son dernier polar qui s'intitule « Les refuges ». Et il présentera à cette occasion aussi un certain nombre de ses polars précédents. « Les chiens de Détroit » qui a reçu le prix Plume Libre d'Argent 2018. Et un autre paru en 2018, le 12e chapitre. Prix du Polar de Moustier 2018 et prix Mauve en Noir 2019, donc très primé. Voilà donc pour les actualités à la FNAC de Nevers, mais il se passe des tas de choses tout à fait extraordinaires et étranges. Aussi près, Jean de la Lune. Alors ouais. Déjà, il y a une ouverture qui se profile.
Alors oui, une ouverture.
C'est une surprise.
Prochaine, voilà, vous en saurez plus sur les réseaux sociaux, puis en passant à la librairie.
Voilà. Il y a du suspense là, hein, parce qu'on ne sait pas tout. Hein.
Voilà. Donc c'est l'ouverture d'une papeterie, donc qui va s'appeler la papeterie Ciseaux, qui sera tout en bas de la rue. Donc on reste dans la même rue du Cyprès et Jean de la Lune. C'est en face de la librairie Jean de la Lune, où on va proposer des produits de papeterie plus axés loisirs créatifs, des beaux carnets. Des beaux stylos, plein de jolies choses,
des bonnes idées cadeaux. J'irai peut-être faire un tour, moi, tiens.
Voilà, bonnes idées cadeaux avant Noël.
Je passerai également.
Tant mieux, on vous attend aussi nombreux. Et puis, pour ce qui est des actualités également du Cyprès, on a un mois qui est assez chargé.
Oui, très riche, ça donne envie. Là,
ouais.
On va pouvoir, savoir
lesquels
prendre
plus,
pour les cadeaux de Noël. Il y en a pour les grands-parents, les petits-enfants, les oncles, les tantes, les cousins, et pour soi-même aussi.
C'est pas qu'à faire. Donc, on commence par le mois de novembre. Alors, c'est le 29 novembre, donc c'est fin novembre. Le vendredi à 17h, on reçoit Martine Carillon-Couvreur. Avec un illustrateur pour la dédicace de son livre National 7.
Oui, bien sûr, oui, qui retrace donc l'historique de cette fameuse National 7 que tous les Nevers-sois connaissent.
Voilà. donc grosse journée parce qu'à 18h, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit Marin Fouquet.
Oui.
Donc l'auteur de 7-7. Donc ça, c'est
vraiment
voilà, exactement. une super soirée en perspective. Ensuite, le samedi 30 novembre à 18h, on reçoit les éditions Cambourakis.
Oui, des éditions qui sont spécialisées un petit peu dans la publication, la traduction d'auteurs étrangers. Mais
voilà,
et là
en particulier, ce sera sur la littérature grecque.
Donc, voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les auteurs grecs dans de très bonnes traductions, parce que c'est, on ne le dit jamais assez, venez voir les éditions Cambourakis, c'est du haut niveau.
Ouais. Ensuite, le samedi 7 décembre, on va recevoir Cécile Coulon.
Cécile Coulon. Ah, il faut quand même en dire deux petits mots. Il y a peut-être quelqu'un qui la connaît pas parmi les auditeurs.
Au paradis, voilà, qui est une très jeune auteure, enfin, qui commence, voilà, de prendre un peu d'âge maintenant.
Eh bien, elle est de moins en moins jeune, comme tout le monde.
Mais elle a commencé, voilà, à écrire très jeune de très bons livres, et son dernier livre est excellent. Voilà, Une bête au paradis. Je pense que les gens en ont beaucoup entendu parler. Elle était passée à la grande librairie.
Oui.
Enfin voilà, c'est un personnage.
Elle a des tas de choses à dire. Elle est passionnante, cette femme.
Ouais.
Moi j'avais beaucoup aimé aussi Le rire du grand blessé. Je sais pas si.
Non, alors je l'ai pas lu celui-ci.
Ah bah faut le lire.
Ouais. J'ajoute à ma liste des livres à lire.
C'est voilà.
Donc c'est le 7 décembre à 18h.
Oui. Donc la date à noter aussi.
Voilà. Et puis on a enfin Marie-Aude Muraille.
Ah, Marie-Aude Muraille.
Qui vient le vendredi 13 décembre. Donc elle sera l'après-midi à Jean de la Lune et il y a une rencontre qui sera animée aussi près le soir.
Alors moi j'invite tout le monde à y aller parce que c'est une femme vraiment passionnante qui a des tas de choses à raconter, mais pas juste pour l'écouter raconter. Mmh. Elle nous fait réfléchir, elle nous fait rire, c'est déjà pas mal, je trouve.
Et ses livres sont extraordinaires.
Voilà. C'est tout à fait, je suis bien d'accord.
On
a un connaisseur et je me suis laissé dire, Arthur, que elle vous avait inclus dans les remerciements d'un de ses romans.
Oui, c'est ça, dans le dernier Sauveur et Fils qui est sorti en septembre, le Sauveur et Fils 5.
Voilà, donc je pense que nous avons un vrai spécialiste de Marie-Aude Muraille, donc vous ne le voyez pas, il est à ma droite, mais je pense que voilà, il sait de quoi il parle. Et c'est vrai que on a la chance de la voir chez nous, il faut y aller. Moi je vais très certainement m'offrir un de ses derniers romans. Je dis me l'offrir moi-même parce que personne ne pense jamais à m'offrir des romans jeunesse. Non, mais c'est vrai. On m'offre des romans pour adultes, mais les romans jeunesse, il faut y penser. C'est passionnant aussi et pas seulement quand on a l'âge d'Arthur. Mmh. Voilà. Donc beaucoup de choses en perspective à la librairie du Cyprès, du Cyprès Jean de la Lune. Alors, merci beaucoup. Et il y a aussi des dédicaces à l'espace culturel Leclerc. Donc, le 30 novembre, Xavier Serrac viendra dédicacer ses ouvrages à partir de 10h. Donc, ce sera « J'aurais voulu être quelqu'un de bien » et l'autre « Quand cesse le chant des sirènes ». Donc, ça, c'est quand même un programme assez riche aussi. Le 7 décembre ensuite, Corinne Cloix, quelque chose de totalement différent, entre 16h et 18h, viendra dédicacer l'hypnose pour ton équilibre. Eh bien, voilà, pourquoi pas.
C'est un programme.
Voilà aussi. Si vous voulez tout connaître sur les mystères de l'hypnose pour vous équilibrer, eh bien, je crois que c'est avec elle qu'il faudra voir et en parler. Alors, je terminerai avec quelques événements à ne pas manquer. D'abord, la parution prochaine de Très engagé par Fabienne Desseux aux éditions Iconovox. Alors, j'épelle le mot parce que ça n'est pas très T-R-E accent grave S, mais T-R-A-I-T-S, donc des traits de dessinateurs. Donc, les dessinateurs parlent de leur métier. C'est un ouvrage qui brosse le visage du dessin de presse d'aujourd'hui. 14 d'entre eux, avec des profils très différents, qui ont accepté de témoigner. C'est un état des lieux. D'un travail pas comme les autres. Et la souscription vient de s'achever et le livre paraîtra début janvier. Donc une parution à ne pas manquer non plus. Plus près de nous dans le temps, parce que début janvier, c'est quand même pas tout de suite. Ce soir, si vous nous écoutez mercredi, sinon ce sera hier, si vous nous écoutez jeudi, le fabuleux et extraordinaire, je pèse mes mots, c'est pas une plaisanterie, le tandem François Bon, Dominique Pifarelli, François Bon, écrivain, Dominique Pifarelli, violoniste, autour de la nouvelle d'un auteur que je trouve tout à fait passionnant, Lovecraft. La nouvelle s'intitule « La musique d'Eric Zahn ». Donc, pour ceux qui connaissent Lovecraft, je pense que tout le monde la connaît. Et croyez-moi, ça va envoyer du bois. C'est à 20h à la Maison de la Culture, donc le 27. Et malheureusement, je vais rater ça. Parfois, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais ça va vraiment. Enfin, bon, il y a que des bonnes choses là-dedans. Il y a du Lovecraft, du François Bon et du Pifarelli, franchement. Voilà. Et également, un petit peu plus tard. Donc, pour ceux qui auront la chance d'être à Paris le 30 novembre, à la librairie Comme un roman à 17h, il y aura des lectures par Corinne Fréguin et Vincent Bernard de poèmes publiés par les éditions nivernaises La Tête à l'envers. Et notamment de ce très incroyable et inclassable conte poétique « Les sept voyages d'Ali, l'homme tapis » de Christian Ollier, que je ne saurais trop vous recommander. Si vous ne savez pas quoi mettre sous le sapin, c'est tout petit, mais ça vous ouvre l'esprit, ce texte, c'est un vrai bonheur. Et le samedi 7 décembre, à la Galerie, à Pouilly-sur-Loire, une lecture musicale également de poèmes publiés par les éditions La Tête à l'envers, organisée par l'Atelier Desnoyers. Donc, il va s'en passer des choses en décembre. Mais tout de suite, restons dans la musique. Nous allons écouter le deuxième morceau que vous avez choisi, Christophe Alves. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Le bon, la brute et le truand. On reste encore dans le western.
Oui. Alors on est parti pour le bon, la brute et le truand. Alors, vous êtes toujours sur Bac FM, les voix du livre, et nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Alves, qui a choisi ce morceau qui crée une sacrée ambiance. Alors, j'ai bien compris que les musiques servaient à vous immerger dans un état d'esprit particulier quand vous dessiniez. Et qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans ce morceau-là, « Le bon, la brute et le truand » ?
Parce que c'est aussi un film, je trouve, vraiment réussi du début à la fin, entre la caractérisation des personnages, l'histoire, la musique. Pour moi, tout est réussi. C'est vraiment un film, je trouve, fabuleux. Quoi.
Oui, c'est vrai que du scénario à la réalisation aux couleurs,
les couleurs,
c'est hyper efficace. Hein.
L'humour aussi dans les situations, dans les dialogues.
C'est un humour bien, voilà. Ça rate bien.
Mais c'est dans la finesse.
Oui. Dans la finesse, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Exactement. Oui, donc c'est ça qui vous a...
Et ça rejoint, je dirais, parce que c'est vrai que moi je suis passionné, c'est plus le mot, passionné par le fait de raconter des histoires. Donc que ce soit au cinéma, en bande dessinée, donc je trouve que ça rejoint pour moi, c'est aussi de la bande dessinée, le bon, la brute et le truand, quoi.
Oui, bah, le fait qu'il y ait, que ça soit séquentiel, ça rejoint un petit peu le...
Oui, puis les situations sont vraiment, comment dire, exagérées, les couleurs aussi sont saturées, oui. Je sais pas, tout, vraiment ça me parle, c'est aussi comme le film Il était une fois dans l'Ouest, que je trouve vraiment comme un chef-d'œuvre également, aussi bien en narration, en personnage, en scène, en surprise, en suspense... Donc c'est des choses qui m'évoquent vraiment beaucoup d'images et j'adore être dans ces bains là, on va dire, pour créer, pour dessiner. Ça m'aide aussi à mettre vraiment dans l'ambiance de la scène, par exemple, ce que j'expliquais tout à l'heure, en fonction de ce qu'il faut arriver à faire ressentir au lecteur.
Et ça fonctionne.
Je me permets de rebondir parce que vous parlez beaucoup de western et bon, je pense que j'ai vendu un western en livre à tout Nevers maintenant.
Alors, c'était pas acheté celui-là encore.
Tellement, voilà, c'est pour ça que je voulais vous poser la question si vous connaissiez. Ça s'appelle Lonesome Dove de Larry McMurtry.
Effectivement.
Voilà, en deux tomes.
Je m'en souviens.
Et ça a été pour moi un vrai, vrai coup de cœur. Donc, c'est vraiment, on retrouve tous les codes du western.
D'accord.
Donc, c'est, voilà, je vous le conseille.
Donc, voilà, c'est encore donc un futur lecteur.
Voilà. Disponible aussi près.
Vous ne serez pas déçu. Hein.
Non, c'est
excellent. Mais j'ai bien
il
saisi.
A eu le prix
je passerai aussi près.
Larry McMurtry dans les années 80. Donc voilà, c'est un classique du genre. Voilà.
Ah, ben au contraire. Donc cette émission est sous le signe du western, de Lydie Orion. Donc Christophe Alves, vous êtes l'auteur, vous êtes un raconteur d'histoire. Vous êtes l'auteur de nombreuses bandes dessinées bien connues. Je pense à Lefranc ou Harry Dixon, mais aussi Dusty Down, Betty Story ou encore Malgré, parodie de Maigret. Et aussi, vous avez de nombreux projets qui sont encore dans vos cartons. Mais vous venez surtout de publier Lune Rouge, la 30e aventure de Lefranc. Alors je précise, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, mais ils doivent être peu nombreux, vous savez, Lefranc, c'est ce journaliste blond sans peur, confronté aux mystères et aux espions, avec un petit soupçon de science-fiction de temps en temps. Le scénario est de François Corteggiani et les couleurs de Bonaventure. Hein.
Oui, c'est ça. C'est
voilà.
Ça.
Et alors, bon, c'est la minute nostalgie pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je dévorais cette BD quand j'étais enfant et je continue à la lire. Voilà, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'en ai toujours quelques-uns dans ma bibliothèque, dont certains dessinés par vous.
Oui.
Mission Antarctique, parce que moi j'adore les histoires qui se passent en Antarctique. Voilà. Et en plus,
ça tombait bien. Voilà.
Oui, ça tombait bien. Et le principe d'Heisenberg.
Oui.
Pour les amateurs de physique quantique dont je suis, le titre fait tout de suite saliver, forcément. Donc bref, moi je suis, j'en lis. Mais avant de dessiner des univers aussi complexes, parce que quand on plonge le nez dedans, on s'aperçoit que tout ça est bien compliqué quand même, entre la minutie du détail, la justesse du scénario, l'évolution, le rythme, le mouvement dans les personnages, etc. Il faut de la passion, il faut du temps. Et de la transpiration. Il y a un début à tout. Vous avez, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner et d'en faire votre métier? Parce que je rappelle aux esprits malins que dessiner, c'est un vrai métier.
Pourquoi c'est bien de le préciser. Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner?
C'est vraiment le hasard. C'est ma grand-mère qui me gardait la plupart du temps, comme mes parents travaillaient en usine, donc avec des horaires qui étaient assez, ce qu'on appelait les 3-8, travailler soit le matin, soit l'après-midi, soit la nuit. Donc ma grand-mère me gardait. Et donc j'ai beaucoup de cousins, cousines, donc il y a toujours eu beaucoup de bouquins, surtout de bandes dessinées qui traînaient. Et j'ai découvert Les Bijoux de la Castafiore,
oui.
Comme ça, par hasard. Donc j'étais vraiment, j'avais peut-être 5-6 ans.
Ah oui, à 5 ans, vous lisez Les Bijoux de la Castafiore.
Non, pas tout seul,
Parce que à 5 ans, lire, c'est pas facile.
Non, mais je veux dire, j'ai toujours été, c'est vrai, attiré par tout ce qui était images, surtout dessins. Et j'ai toujours eu des crayons à volonté, des feuilles aussi. Donc surtout par le biais de ma grand-mère, on était vraiment, on va dire très très proches.
Votre grand-mère vous donnait des feuilles pour dessiner.
Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc
mais
j'ai toujours dessiné.
Quelle bonne idée cette
grand-mère. Oui, voilà, exactement. Oui, oui.
Donner des feuilles et des crayons à vos petits enfants pour Noël.
Et c'est vrai que c'est la première aussi qui m'a un peu encouragé, on va dire, dans cette voie parce que j'ai toujours voulu faire ça.
Ah oui, donc c'était vraiment quelque chose de d'ancré en vous très
rapidement.
Ah oui,
c'est, je prends souvent l'image, alors ça peut faire très cinéma hollywoodien, la lumière qui tombe comme ça du plafond. Avec, je sais pas, les cœurs.
Tu seras
Alléluia.
Dessinateur, mon fils.
Non, mais c'était à peu près ça, quoi. Je veux dire, en découvrant Tintin, je me suis dit, mais c'est vraiment génial. On peut partir à l'autre bout du monde, au Tibet, en Amérique du Sud. Et comme j'étais en HLM, donc ça me permettait.
Oui, c'était loin ça aidait, voilà. De l'Amérique du Sud.
Exactement. Mais je pense que c'était ce grand écart aussi. Qui m'a
envie de... choc, en fait,
c'était un choc,
part.
Oui, oui, tout à fait.
Choc esthétique.
Esthétique et aussi au niveau pouvoir raconter des histoires. Les bijoux de la Castafiore, quand on regarde, il n'y a pas d'histoire.
Oui, c'est vrai que...
C'est soi-disant qu'il y a un vol de bijoux. Bon, je ne raconte pas tout. Hein.
Pas de spoil sur Tintin.
Voilà, exactement. Mais voilà, je laisserai ceux qui ne l'ont encore pas lu...
Découvrir,
mais sur 62 pages, on est captivé et donc on est surpris, il y a des coups de théâtre. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Quoi.
C'est ça qui vous a plu, vous vous êtes dit, moi j'ai envie de raconter des histoires.
J'ai envie de raconter des histoires, c'est ça.
Ouais.
Et c'était pas l'illustration, c'était vraiment faire de la bande dessinée, raconter des histoires, faire vivre des personnages.
Faire vivre des personnages, aller dans des lieux différents,
des
endroits.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais en fait, vous ne vous doutiez pas... à 5 ans, c'est normal, de tout le travail que ça pouvait représenter. Vous avez eu cette espèce de révélation, mais vous savez maintenant que à quoi ça correspond. Et est-ce que justement vous pouvez, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, à quel point c'est un travail long, compliqué, passionnant certes, mais quand
qui
même
peut
avec...
Être fastidieux aussi.
Qui peut être fastidieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, la genèse de cet album de Lune Rouge?
Alors
le temps qu'il a fallu, par exemple.
Alors, c'est vrai que pour un album comme Le France, c'est vraiment de l'ancienne école, comme les Tintins, comme Blake et Mortimer aussi.
J'adore aussi.
Et c'est vrai que c'est très exigeant. La ligne claire, malgré ce qu'on peut penser quand on n'est pas forcément au courant.
Les gens ne réalisent pas.
Oui, on se dit qu'il y a un trait, un seul trait, donc c'est facile. Non, c'est beaucoup plus difficile de faire un seul trait que de faire énormément de traits.
Ah ben voilà, une révélation. Attention, hein, c'est un scoop.
Non mais c'est vrai, je veux dire, de rajouter des hachures, ça peut être très bien. Hein. Je ne dis pas que c'est moins bien.
Oui, c'est une autre esthétique. Mais
voilà, exactement, c'est un autre style. Mais il est toujours plus facile de masquer à la rigueur des problèmes techniques.
Ah oui.
En rajoutant un peu d'aplat noir, de hachure, que quand on fait un trait en franco-belge, si le trait n'est pas à la bonne place, ça se voit tout de suite.
Ça pardonne pas.
Ça pardonne pas, voilà. Donc c'est pour ça que pour faire un album comme Lune Rouge, il faut compter à peu près une semaine par planche.
Ah oui, quand même. Ah oui.
Et une semaine, c'est pas 35 heures, on est plus proche des 40, voire 50 heures. Et en ne faisant que ça, c'est-à-dire en cherchant la documentation, en faisant des croquis, on part pas tout de suite sur la page finale.
Alors justement, comment vous faites pour la documentation, par exemple? Là, pour Lune Rouge, il y avait quand même une époque à respecter.
Surtout pour Le Franc. Donc là, c'est vrai que les héritiers de donc les enfants de Jacques Martin ainsi que Casterman ont décidé que justement les aventures resteraient dans les années 50 à 60, on va dire.
Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même un parti pris.
Exactement.
Hein.
Donc ça veut dire que dès le moment où un personnage téléphone, appuie sur un interrupteur, il faut rechercher les éléments de l'époque. Voilà, c'est ça. Si on dessine un personnage qui est en train de passer une vitesse, ses vitesses dans la voiture, il faut avoir des photos de l'intérieur d'une voiture des années 50.
Ah oui, d'accord. Et donc, sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des lecteurs qui vous,
disent,
mais ça ne va pas du tout.
Oui,
la déesse de l'époque, elle n'avait pas de, je sais pas quoi.
Oui, mais complètement. Hein. Donc, c'est vrai que on essaye avec François Cortegiani au scénario d'être le plus proche possible, le plus juste possible, mais c'est ce que je dis souvent. Je veux dire, bon, il y a vraiment beaucoup de lecteurs. Là, pour le franc, on est à peu près à, je sais pas, 45 000 ventes. On s'approche même des 50 000. Nous, on est deux.
Oui.
On peut pas lutter face à 50 000 lecteurs, voire plus, quoi.
Qui ont un œil de lynx et qui connaissent.
Et on tombe toujours, sur le spécialiste du modèle de véhicule.
Voilà, de la DS des années de 1952.
Voilà.
Avec le tableau de bord en noyer.
Bon. Donc, il va nous dire, le modèle que vous avez dessiné est sorti en octobre, votre histoire se passe en avril, donc c'était pas possible. Voilà.
Donc, c'est nul, cet album.
Voilà,
est nul.
C'est un peu.
Ouh! Dis donc, faut être solide, hein.
Oui, mais après, bon, c'est vrai que. Bon, ça arrive. Donc, en général, quand on peut modifier, on modifie quand il y a une, comment dire, un retirage de l'album.
Vous faites les petites modifications.
Les petites modifications, si ça, c'est vrai que si c'est pas trop important à faire aussi, quoi.
Et donc vous parliez du dessin et de la ligne claire, mais
je crois que Fanny, bien sûr. Comment vous faites du coup pour vous documenter sur cette époque-là? Vous utilisez Internet?
Surtout Internet. Ouais. Et heureusement.
Ouais.
Heureusement,
merci,
parce
Internet.
Que
voilà, un petit qui peut être utile.
Parce que je commence à avoir un âge certain également. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était uniquement les bibliothèques, se déplacer sur les lieux, éventuellement contacter syndicats d'initiative pour avoir.
Alors là, Arthur se dit que c'était la préhistoire.
C'était la préhistoire, oui. C'est une époque très très lointaine.
Il faut connaître la préhistoire, Arthur, pour mieux apprécier le présent.
Mais après, c'est vrai qu'avec François Cortegiani, qui prépare toute l'histoire justement au tout début, lui, il va avoir des pistes aussi. Il a énormément de documentation. Là, chez lui, c'est un vrai musée.
Ah oui, d'accord. Les mêmes musées des années 50.
Pas forcément, parce que comme il a scénarisé aussi la jeunesse de Blueberry, par exemple... Oui, il a
encore
plus de...
un petit peu de western.
Voilà, exactement. Ça nous poursuit.
On y revient toujours.
Mais déjà, à ce niveau-là, il va me donner des pistes.
D'accord.
En disant, prends plutôt tel véhicule parce que ce véhicule est rouge par rapport à l'ambiance aussi.
Donc
c'est vraiment surtout Internet. C'est surtout Internet.
Fastidieux, mais intéressant. Ouais.
Et aussi les amis.
Ah bah oui.
Voilà, les amis, les connaissances. Par exemple, sur Lune Rouge, j'ai un ami qui travaille à l'Eurospace Center de Belgique.
Mm-hmm. Ah bah oui, il doit être un peu au courant.
Il est un peu, au courant de...
Ouais. Ça parle de conquête spatiale, je précise juste.
Oui, c'est vrai que c'est important.
Oui. Non, je le dis parce que c'est pas forcément évident.
Et donc, c'est vrai que là, c'était... La première séquence se passe à Miami, sur le pas de tir.
Oui, tout à fait.
Pas très loin, mais en Floride, plutôt. Et donc là, c'est vrai qu'en recherchant justement la documentation, grosso modo, tous les mois, il y avait des nouvelles installations. Donc moi, j'étais pas sûr des photos, si elles correspondaient au bon mois. Est-ce qu'il y avait une tour de lancement en plus?
Faut s'accrocher. Hein.
Donc je l'ai contacté, c'est Pierre-Emmanuel Polis, qui m'a dit, je me renseigne aussi, parce qu'il connaît aussi des astronautes américains. Mm-hmm.
C'est pratique, ça.
Au niveau.
Astronautes américains sous le coude.
Voilà. Donc, moi, je ne connais pas d'astronautes américains.
Moi non plus. Et voilà, c'est par le biais. Après, on fait marcher le réseau aussi. Et souvent, on s'aperçoit qu'en deux, trois coups de fil, ou en passant deux, trois messages sur Facebook, par Internet, donc on peut assez rapidement avoir les documentations sur des choses très pointues.
Mmh. Ben oui, voilà comment ils font. On sait tout.
Faut essayer d'être malin, quoi. Ouais. Voilà.
Et outre cette question de la documentation et de la technique, vous avez, je crois, une manière bien à vous de dessiner vos personnages, de leur donner de la vie. Comment vous faites?
Oui, c'est vrai que pour chaque personnage, même les personnages secondaires, voire, je ne sais pas si on peut dire tertiaires, ceux qui sont là pour meubler, on va dire, la case, je vais me mettre à la place de chaque personnage. Donc
Ça, c'est fort.
Non, mais dans le sens, même si c'est sur une case ou deux cases, en me disant, je ne sais pas si c'est une mamie qui est en train de passer sur un trottoir en promenant son chien, je m'invente l'histoire en disant les sorties.
Christophe était une mamie, en fait.
Voilà.
C'est ça qu'on ne sait pas.
Un court moment. Mais...
ça vous fait des bonnes journées.
Oui. Ma femme me trouve fatiguée le soir.
Oui, ça m'étonne pas.
Mais c'est vrai que mais je le fais systématiquement en me disant si elle promène son chien, est-ce qu'elle a de l'arthrose.
Oui.
Mais je veux dire, ça peut paraître comme ça, je veux dire d'aller loin, mais ça va donner sa position.
Oui, tout à fait.
Son mouvement, le chien à la rigueur, s'il a tendance, si c'est un plus gros chien, donc elle va voir la laisse qui va être vraiment tendue, le bras tendu. Donc c'est plein de petits détails.
Donc vous ressentez l'arthrose dans la main de qui tient la laisse du chien.
Oui, c'est ça. C'est
d'accord.
Ça.
D'où la qualité du dessin de la main, en fait.
Mais après, voilà, c'est ce que j'essaye de faire sur chaque personnage, c'est de donner qui soit réaliste.
Oui.
Qui soit réaliste.
Par une empathie totale avec
le
personnage,
en fait. Et aussi d'arriver à bien les différencier, surtout quand il y a les personnages principaux, voire secondaires, même si c'est une femme. Alors évidemment, moi, j'ai repensé, par exemple, à des films. Je sais pas si c'est une femme un peu... blonde, je vais penser à Marilyn Monroe.
C'est vrai, autant prendre Marilyn Monroe, c'est vrai que c'est mieux.
Non, mais je veux dire, après, c'est en fonction, c'est vraiment un casting.
Ah oui, d'accord. Donc vous faites votre casting interne, en fait.
Oui, c'est ça, et avec le scénariste.
Ah.
Et même, là, il est déjà arrivé que, par exemple, là, il y a une secrétaire, Mélanie.
Oui.
Mélanie existe.
Ah oui, d'accord. Donc parfois, il y a des morceaux de vraie voilà. vie dans le...
Parce que c'est une amie à Cortegiani, à François Cortegiani, que j'ai... Donc cette amie, je l'ai rencontrée aussi, très sympathique. Donc je l'ai revue là, il y a 15 jours, 3 semaines, lors d'une dédicace là, du côté de Carpentras. Et comme elle avait changé de coiffure, on s'est dit, bah, tiens, on va moderniser dans l'histoire aussi.
Ah oui. Oh, mais ça, c'est génial.
Donc comme elle est passée, on a dit, bah, reste là 5 minutes, on prend en photo. Donc on a refait quelques photos.
De dos, 2-3 quarts.
Voilà. Non, mais pour dire, voilà, donc c'est vraiment un casting aussi bien avec des personnages connus, des rencontres, ce qu'on a envie d'induire.
Oui, vous faites flèche de tout bois, en fait.
Oui, exactement.
Hein, que ce soit pour la documentation ou les personnages.
C'est ça.
Alors, eh bien, malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. C'est terrible parce que déjà, on aurait dû faire une spéciale rien qu'avec vous. Et donc, je vais simplement vous demander de nous faire part, peut-être, de vos projets. Est-ce que vous avez des projets
Oui, oui, j'ai des projets, oui.
Non, les auditeurs ne le voient pas, mais il a un petit sourire en coin.
On peut toujours demander. Non, c'est vrai qu'il y a toujours des projets, je dirais, sous le coude, même des choses. J'ai même des histoires que j'ai pu écrire il y a 15 ans, 20 ans, donc dans des dossiers. Donc, ça sortira peut-être jamais ou ça sortira peut-être un jour. Mais là, actuellement, je travaille à fond sur...
J'espère que ça sortira un jour, mais oui.
Oh, il y a des choses, peut-être pas non plus. Hein, je veux dire, faut pas... Comment tout n'est pas forcément intéressant à exploiter. Et c'est vrai que là, en ce moment, je suis vraiment axé sur le franc. Et ça me prend tout mon temps, donc, pour le faire sérieusement. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment...
Mais donc, vous ne nous en direz pas plus, ce sont des projets secrets.
Je suis désolé,
ah là là.
Voilà.
Ah là là, c'est terrible, nous terminerons donc sur ce suspense
insoutenable.
Tous les auditeurs vont ronger leurs freins jusqu'à la prochaine parution. Alors, merci beaucoup Christophe Alves d'avoir répondu à notre invitation. Et ben, je propose à tous les auditeurs de se plonger dans les pages de Lune Rouge, ça dépayse dans l'espace et dans le temps, et il y a même des petits morceaux de personnages vrais dedans. Et merci aussi à nos nouveaux chroniqueurs Fanny et Arthur, que nous retrouverons bien sûr le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de Bac FM.
Merci à vous.
Au revoir.